France Musique.
Notre émission va commencer dans quelques instants.
Voici le jazz français.
France Musique, le jazz en France sous l'occupation. Florian Royer. Troisième épisode, la guerre des jazz.
Mesdames, messieurs, nous avons le regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de suspendre le spectacle, la région parisienne venant d'être mise en état d'alerte. Veuillez donc gagner sans hâte les abris qui vous ont été indiqués. Notre personnel vous guidera, vous avez tout le temps nécessaire.
Début 1944, les bombardements se font de plus en plus intenses sur Paris. Django Reinhardt, personnage principal du jazz de l'occupation, se fait discret. Il s'est marié quelques mois auparavant et son épouse est enceinte. Il joue à La Roulotte, un petit cabaret parisien que la propriétaire a rebaptisé chez Django Reinhardt pour attirer le chaland. Philippe Baudouin, musicologue spécialiste de Django Reinhardt.
Delaunay le dit bien là-dedans, à La Roulotte, on rencontrait des officiers allemands, mais on rencontrait aussi des Anglais qui avaient été parachutés. Et ils jouaient des tas de morceaux, à la fois ils pouvaient jouer Lili Marlène, que les Allemands adoraient, puis ils pouvaient jouer un morceau que les Français adoraient ou que les Anglais adoraient, en pleine occupation, c'est-à-dire dans les cabarets, c'était une espèce de zone franche.
Quand il s'agit de jouer du jazz, c'est souvent les succès de Django qui s'imposent à l'esprit des musiciens. Et c'est le cas jusque dans les stalags, où sont parqués les prisonniers de guerre. En 1944, la Croix-Rouge monte une exposition intitulée « L'âme des camps » au Grand Palais à Paris. Le but, montrer que dans les camps, les prisonniers ont une vie presque normale, avec accès au sport ou à la culture. Et pour servir cette propagande, eh bien, qui de mieux que les prisonniers eux-mêmes ? En prévision de l'exposition, des disques sont enregistrés dans un stalag là-bas au fin fond de la Bohème, avec du matériel et des instruments prêtés par une fondation suisse. Ces 78 tours uniques ont été transférés numériquement par Henri Chamou, ingénieur d'études à l'École normale supérieure de Lyon, et à qui j'ai demandé des renseignements sur ces étranges enregistrements.
Ce titre provient d'un ensemble unique de disques gravés en 1943 et 1944 par des Français prisonniers dans le Stalag 4C en Bohême. Pendant plus de 70 ans, à partir de 1945, ils avaient été conservés à Morsang-sur-Orge, dans l'Essonne, par Élie-Jean Pascot, qui avait été l'initiateur de la création d'un studio d'enregistrement dans son stalag, avec le soutien d'une œuvre de charité de Genève, la YMCA. Ces disques ont sans doute visé à servir la propagande de Vichy, mais il est douteux qu'ils y aient vraiment servi. Et outre le jazz ou les fragments classiques qu'ils contiennent, ou les poésies de prisonniers de guerre, les sketchs, parfois séditieux contre les autorités allemandes, globalement c'est bien plus la douleur du prisonnier qui ressort de ces disques, bien plus qu'un quelconque message politique. Et cet ensemble d'une trentaine de titres différents m'avait été donné pour numérisation au LARA, le laboratoire d'histoire pour lequel je numérise des enregistrements sonores rares ou fragiles. Et ils sont désormais conservés aux Archives nationales.
Merci à la Phonobase et au LARA pour le prêt de l'archive. Pour leur répertoire, les prisonniers n'ont pioché que dans les titres de Django Reinhardt, avec Minor Swing que l'on vient d'écouter, mais aussi Swing 42 et évidemment l'incontournable Nuage. Dans leur petite formation, on distingue un accordéon, un violon, une contrebasse et peut-être une guitare. Dans les stalags, les prisonniers sont parfois autorisés à organiser des concerts avec les moyens du bord. Les jazzmen américains, arrêtés lors de l'entrée en guerre dans leur pays et emprisonnés depuis 1941, font de même. Ainsi, Maceo Jefferson, que nous avons croisé dans les épisodes précédents, organise ce type de concert et édite même des programmes en allemand au sein du camp. Grâce à l'un de ces programmes, nous savons par exemple que le 22 février 1942, les prisonniers du Stalag 122 ont joué la méditation de Thaïs, la Paloma et, plus étrange, des titres américains. comme Jeepers Creepers ou encore Swanee River et Old Black Joe, deux airs du folklore américain. Anne Legrand, historienne et musicologue, autrice d'une thèse sur Charles Delaunay dans les années 30 et 40.
Chez les musiciens, on peut dire que c'était un acte de résistance. Je pense qu'ils savaient tous que cette musique était interdite ailleurs. C'était un acte de résistance. Et il y a aussi, pour ceux qui sont dans des stalags ou qui sont dans des camps, même Jacques Bureau le disait, j'ai survécu grâce au solo de Bix Beiderbecke que je me chantais. Jorge Semprin, pareil, il a écrit aussi là-dessus, il raconte que lui, c'était les solos de Louis Armstrong qu'il avait en tête et qui lui ont permis de continuer de vivre. Donc le jazz, par ces deux façons de survivre à travers la musique et les souvenirs musicaux des disques et où l'exécution musicale fait partie, oui, d'un acte de résistance ou permet de résister, dans le sens de résister à l'occupant ou de résister et de survivre.
Mais les nazis se servent aussi du jazz pour leur propagande.
USSR. He's known around from near and far, that actor man with the big cigar. He pops away every night and day with a twinkle in his eye, and all the while behind that smile lurks many an untold lie. Down Whitehall way you'll see his car. He's here, he's there, he's everywhere, the friend of the USSR. V stands for vanquish, it's the slogan of his land, and he'll fight until it's finished, and there's no one left to stand. He'll keep the red flag flying, though hammered black and blue, for he's getting more than he bargained for, that fat friend of the Jew. So keep your chins up, one and all, and remember what I say. If Britons were to Britain true, they'd send that man away. Who is that man with the big cigar? He's here, he's there, he's everywhere, that man with the big cigar.
Le Charlie Orchestra, c'est une idée de Goebbels. Goebbels, il a compris que la vogue du jazz était irrémédiable, notamment avec l'arrivée de la vague swing, comme je vous l'ai dit, au moment où c'est associé aux Jeux Olympiques. On ouvre, hein, si vous voulez. Donc, il a compris cela. Alors, il va avoir, ça va s'articuler son projet en deux choses. Il essaie de créer un jazz national, allemand, justement, avec des musiciens allemands. Et à côté, il met en place un orchestre qui va diffuser de la propagande vers les armées alliées en diffusant des standards de jazz, excusez du peu, si vous voulez, ce qu'on a appelé qui s'appelait le Charlie Orchestra, qu'on a appelé l'Orchestre de Goebbels, et diffusait de la propagande en anglais vers les armées alliées et les camps de prisonniers.
l'historien Gérard Régnier, en 2010, sur France Musique. Et c'est bien Charlie and His Orchestra que nous venons d'écouter. Orchestre de jazz de propagande nazie, affublé d'un nom à consonance britannique ou américaine, mais dont le chanteur s'appelle Karl Schwedler. Charlie and His Orchestra ne joue pas du tout pour un public allemand. D'ailleurs, les disques sont enregistrés secrètement. L'idée de Goebbels, c'est d'utiliser la propre culture des alliés, le jazz en l'occurrence, mais de la dénaturer et de s'en moquer. Par exemple, l'homme avec un gros cigare, l'ami des soviétiques dont parle la chanson précédente, c'est évidemment Churchill. Charlie and His Orchestra joue pendant toute l'occupation mais ne quitte jamais l'Allemagne. Et au fur et à mesure que les musiciens allemands sont appelés sur le front de l'Est, ils sont remplacés par des Belges, des Italiens ou encore des Hollandais. Sur les centaines de titres enregistrés par cet orchestre secret, à peine la moitié nous est parvenue.
Listen to the BBC, BBC, BBC. Listen to the BBC, tra-la-la-la-la. Who's preaching world democracy, democracy, democracy? Who wants to make free people free, tra-la-la-la-la? First they won the war in France, then they said they had no chance. Each time the Germans did advance, how could they have a chance? They told stories so divine, often marched across the Rhine. Germans eat only rats and mice, but in England all was fine. Bye-bye Churchill, BBC, BBC, BBC. Your tricks won't work with Italy, tra-la-la-la-la. Why not give us different news, different news, different news? Skip those Soviets, skip those Jews, tra-la-la-la-la.
Outre-Manche, la radio britannique, la BBC, diffuse également du jazz pour les auditeurs locaux, mais aussi vers la France, avec une émission en français. Le speaker, c'est le jeune Frank Bauer, passionné de jazz qui a rejoint Londres dès 1940. Au bout d'un an ou deux, il reçoit l'autorisation d'animer une émission baptisée Radio Swing Club, une demi-heure de jazz par semaine. Face à lui, les émissions de propagande allemande ou celles de Radio Paris et de Radio Vichy, dont les programmes sont surveillés par les nazis. Pour alimenter son émission, Frank Bauer se sert dans la discothèque de la radio britannique. Mais que pouvait-il bien diffuser ?
Hello Rhythm Club, this is Harry Ferry speaking and presenting Cyril Blake and his band from Jigs Club, London, playing Cyril's Blues.
France Musique, le jazz en France sous l'occupation, Florian Royer.
Avec les restrictions de matières premières que connaît le Royaume-Uni, la production discographique est ralentie. Dans de telles circonstances, il y a peu de nouveautés disponibles et il est possible que Frank Bauer se tourne vers des titres assez anciens et passés de mode durant la guerre pour les diffuser dans son Radio Swing Club. C'est en écoutant Frank Bauer sur la BBC que le tout jeune Jean-Christophe Averty tombe amoureux du jazz. En particulier avec ce morceau qui, en 1942-43, est déjà bien daté. Kansas City Stomp, par l'américain Jelly Roll Morton. En France, ce jazz typique de la Nouvelle-Orléans est connu mais n'est pas interprété. Seul un orchestre de l'occupation s'est engouffré dans cette brèche, Claude Abadie, avec son pote Boris Vian, deux figures françaises du jazz des origines.
Nous avons pour cela été aidés par notre batteur qui s'appelait Dodi Léon et qui était lui un très bon connaisseur de jazz, collectionneur de disques. Et on s'est mis à jouer les disques qui dataient des années 20, qu'il nous a fait écouter. Nous avons, nous alors, lancé les premiers en France, le revival de la musique traditionnelle. Et je me rappelle qu'au début de nos répétitions, en 44, début 45, il y avait un de nos admirateurs qui venait nous écouter respectueusement et qui s'appelait Claude Luther. Il a adopté ce style, il en a fait une profession et il l'a brillamment défendu pendant toute sa carrière. En France, personne ne jouait ça. Alors il y avait un certain revival dans d'autres pays. Mais en France, et en Europe en particulier, ça a pris naissance après nous. C'est nous qui avons été les premiers. Et c'est pour ça qu'on a été chouchoutés par Charles Delaunay, qui nous a poussés, qui nous a fait jouer dans des concerts, et qui nous a fait enregistrer la session qui a paru les disques sur Swing.
Ce jazz Nouvelle-Orléans ne sera enregistré que bien plus tard. Durant la première moitié de 1944, les studios ferment leurs portes les uns après les autres. La dernière séance de la marque Swing a lieu au mois d'avril. Abadie et sa bande devront attendre l'année suivante pour passer derrière les micros.
Thank you.
Charles Delaunay, lui, se fait discret depuis qu'il a été arrêté et relâché quelques jours plus tard par les Allemands. Pour s'assurer une tranquillité, il demande et obtient, dans des conditions obscures, un certificat de non-appartenance à la race juive.
Donc en fait, il obtient début mai et à partir du moment où il a ce certificat, il va s'isoler à Gambé. Et là, il va rester jusqu'à la libération de Paris. Il attend les premiers chars américains et donc il revient fin août à Paris et réouvre le Hot Club de France le 1er septembre. Le premier musicien américain qu'il rencontre, c'est Arthur Urix qui vient replacer la plaque du pavillon indiquant que c'est le siège de la revue de Jazzot et de l'association Hot Club de France.
Eddie Barclay, hyperactif tout au long de l'occupation, se trouve peu à peu désœuvré. Il organise une ultime séance d'enregistrement durant cette période, mais une fois de plus, les matrices vont rester dans les tiroirs, dont elles ne sortiront qu'en 2002. Pour cette séance, sa dernière sous l'occupation, Barclay fait appel à Hubert Rostin et à Pierre Fouade, deux musiciens du Hot Club de France, qui ne se produit pas une seule fois en 1944. Il fait aussi appel à Robert Mavunzi au sax alto, qui déjà sonne très en avance sur l'époque. Il ne manque plus que les Américains débarquent.
La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureur, de douleur, voici venu le choc décisif, le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France.
Le 6 juin 1944, l'histoire du monde prend une autre dimension avec le débarquement sur les plages de Normandie. L'événement va tout changer sur les plans politiques, économiques. Dans leur bagage, les Alliés apportent non seulement tout un arsenal militaire, mais tout un arsenal culturel qui va s'enraciner en Europe. Mais le temps que les troupes alliées atteignent la capitale, Radio Paris continue à émettre et à diffuser du jazz. Eddie Barclay, par exemple, encore lui, passe le 26 juin 1944. Deux mois plus tard, Paris est finalement libéré et Radio Paris cesse d'émettre le 17 août. Puis le 26, c'est au tour de la Radio Nationale. Dans les cabarets parisiens, qui rouvrent peu à peu, les GIs américains remplacent les Allemands dans le public. Charles Delaunay, rassuré, reprend ses activités et organise une séance de disques au mois de novembre. Pour les solos de guitare, il rappelle évidemment Django Reinhardt qui n'a rien enregistré depuis un an et demi. Ce jour-là, le morceau s'intitule « Welcome ». Thank you. à l'approche de la libération de Paris, l'orchestre de Raymond Legrand, la formation attitrée de Radio Paris, s'est autodissous. Le violoniste Michel Varlop, lui, a fait rapidement ses valises direction son Nord natal, où il parvient à se faire engager dans une boîte ainsi qu'à la radio locale. Il y accompagne une jeune débutante, la future Lynn Renaud. À des milliers de kilomètres de là, en Amérique du Sud, l'orchestre en exil de Ray Ventura s'est lui aussi morcelé. Plusieurs de ses membres ont voulu rentrer en France pour combattre, d'autres ont profité d'opportunités et se sont définitivement installés sur le continent.
J'ai le grand plaisir de vous présenter ce soir au micro notre chef d'orchestre, vedette internationale du jazz, Ray Ventura. Et ceci pour la première fois depuis 5 ans sur les antennes de la radiodiffusion française.
Parti à presque 30 en 1941, c'est finalement tout seul que Ray Ventura revient en Europe. Le pied à peine posé sur le sol natal, il est interviewé à la radio.
Des circonstances font que, par exemple, mon petit trombone Mellet, un brave garçon de Lyon, avait promis à sa femme de rentrer en France au bout de 6 mois. Et fidèle à sa promesse, il réussit à avoir une place dans le bateau qui rentrait en Espagne au bout de 8 mois. Il n'avait donc que 2 mois de retard et il arriva à Lyon où il passa toute la période de 43-44. Malheureusement, Mellet devait être tué dans les rangs des résistants à Lyon le jour de la libération. Quelques autres garçons, par exemple Romance, mon pianiste, Terme, le trompettiste, qui est d'ailleurs très en vedette actuellement à Radio France à Alger, et Mirliro, la batterie, avaient tenu à combattre. Ils se sont engagés vers le mois de septembre 1943. D'autres avaient été attirés par des intérêts personnels, par exemple Louis Vola, le contrebassiste, avait eu l'occasion de former un petit quartet de swing. Et voler de ses propres ailes.
Est-ce qu'il a volé?
Oui, il s'est très bien débrouillé. Il est d'ailleurs toujours à Buenos Aires et il marche très bien. Quelques-uns ont fait également un gros succès. Par exemple, Coco Aslan et sa femme Jacqueline Dumonceau se sont entièrement tenus à la comédie. Ils ont constitué avec les restes de la troupe de René Rocher, les restes de la troupe de Jouvet qui passé en Amérique du Sud les années précédentes et certains éléments intéressés avant. Avec ces restes, ils ont donc constitué une troupe française qui a fait la soudure, si j'ose dire ainsi, avec les saisons actuelles où de nouveau les troupes françaises peuvent se rendre en Amérique du Sud. Parfait. C'est-à-dire qu'en 1944 et 1945, ils ont pu faire une saison française qui a remplacé celle que ces troupes venant de France faisaient d'habitude. D'autre part, des garçons comme Henri Salvador ont eu un énorme succès personnel dans les casinos du Brésil. Henri Salvador est encore une des très grandes vedettes du casino Atlantico.
Uma jovem bonita estava em estado de esperança e perguntou a seu filhinho: meu amor, vamos, responda, queres que a mamãe te dê uma irmã, um irmãozinho? Oh, pequeno bem levado, respondeu que descarado, numa pose de atleta.
Cantaremos las perretas do Brasil.
certains membres de l'orchestre de Ventura, comme Eugène Delhem et Gustave Moulin, restent en Amérique du Sud. D'autres ne rentreront en France que bien plus tard, comme Paul Misraki et Henri Salvador, avec dans leur bagage les nouveaux rythmes sud-américains dont ils sauront faire usage.
France Musique, le jazz en France sous l'occupation, Florian Royer.
À la fin de l'été 1944, les forces alliées gagnent du terrain en France. Les Américains transportent avec eux les fameux V-disques, ces 78 tours spécialement produits pour être envoyés aux militaires américains sur les théâtres d'opération. Ces disques reprennent des gravures commerciales, mais aussi des titres spécialement enregistrés par les artistes pour les armées. Et pour vous donner une idée de la force de frappe de ces V-disques, près de 8 millions d'exemplaires ont été envoyés à travers le monde entre 1943 et 1949, puisqu'après la fin du conflit, des soldats américains sont restés basés des années loin de chez eux. Dans les colis des V-disques, on trouve aussi des milliers de petits phonographes pour les jouer, ces disques, et des millions de boîtes d'aiguilles. À la fin du programme, en 1949, le FBI et le Provost Marshal Office auront pour mission de retrouver un maximum de ces V-disques et de les détruire. Mais retrouver 8 millions de disques à travers le monde, c'était quasiment mission impossible, et encore aujourd'hui, il en reste dans la nature. Sur les V-disques, on retrouve de la musique classique, des titres populaires, mais surtout du jazz. L'armée américaine a édité 905 disques différents où sont représentées les plus grandes vedettes. Frank Sinatra, crooner à la mode, chante sur 75 d'entre eux. Certains artistes, à l'image de Lionel Hampton, se fendent même d'une petite dédicace aux armées avant le morceau, comme une marque de soutien aux troupes à l'autre bout du monde.
This is Lionel Hampton. The label on this V-disc says "Fine Home," and we all hope you'll be fine home soon.
Thank you.
C'est avec ces vie disques que les nouveaux titres américains débarquent en Europe, avec parfois des choses qui n'avaient encore jamais été entendues de notre côté de l'Atlantique. Dans le répertoire, tout de même, très peu de musique religieuse. Seul le Golden Gate Quartet et Sister Rosetta Tharp enregistrent des titres de gospel à destination des militaires afro-américains. Sister Rosetta Tharp, future pionnière du rock, n'apparaît que sur un seul vidisque, avec un style que les Français n'avaient sans doute jamais entendu jusqu'à présent.
So we can straighten out the business at hand. Yes, we are gonna learn a new thing.
We are gonna learn a new thing. We are gonna learn a new thing.
A rhythm and a rock.
And rock's got rhythm.
So we come out tonight.
Rock and roll.
I said we come out tonight.
Rock and roll.
We come out tonight.
Rock and roll.
Whoa, whoa, whoa.
Rock.
De ces vidisques portent le nom de Glenn Miller, un jazzman engagé dans l'armée américaine et qui se trouve à la tête d'une énorme formation musicale. 62 musiciens, arrangeurs, speakers, chanteurs, dont plusieurs sont des jazzmen dans le civil. Peanut Succo, Ray McKinley ou encore Mel Powell. En juin 1944, Miller et son équipe sont envoyés au Royaume-Uni. De là, ils participent au programme radio des forces alliées en Europe, notamment via le service radio du gouvernement américain Voice of America, qui émet en 7 langues, dont l'allemand,
Hier spricht die Stimme Amerikas,
pour contrer la propagande ennemie. En plus des programmes radio, l'orchestre de Glenn Miller se produit aussi sur les bases américaines.
Thank you.
En septembre 1944, les forces alliées prennent leur quartier en France, à Versailles. Glenn Miller doit suivre le mouvement, mais avant de traverser la Manche, il faut réparer les émetteurs radio abîmés par les bombardements ou sabotés par les nazis. Son orchestre préenregistre près de 80 heures de programme en prévision de la diffusion depuis le sol français. En décembre, les réseaux sont enfin opérationnels et l'orchestre est prêt à traverser la Manche. Miller monte dans un avion le 15 décembre. Un avion qui n'arrivera jamais et dont l'épave ne sera retrouvée que 25 ans plus tard. Durant des jours, dans le désordre ambiant, la disparition de Glenn Miller passe inaperçue. Le reste de l'orchestre voyage le 18 décembre et, arrivé à Orly, s'étonne que son chef ne soit pas là pour accueillir les musiciens. Ce n'est que le 24 décembre, 9 jours après l'accident, que les forces armées américaines déclarent Glenn Miller disparu en service. C'est le sergent Jerry Gray qui le remplace à la baguette.
Army Air Forces present I Sustain the Wings. I Sustain the Wings, welcoming home tonight Major Glenn Miller's Army Air Force's Overseas Orchestra, directed by Chief Arranger Sergeant Jerry Gray, and presenting a message from General of the Army H.H. Arnold, Commanding General of the Army Air Forces. And here's Sergeant Tom Hudson.
Major Glenn Miller is not with us tonight. Since December 1944, he's been officially listed as missing in action. This evening, after 14 months overseas, Major Miller's orchestra returns to the American airwaves and to you with his kind of music for your kind of pleasure. We head off with a tune for the men in the world circling Globster and for all the Air Transport Command men for bringing our troops flying home. Thank you.
privé de son chef, l'orchestre conserve tout de même le nom de Glenn Miller et s'installe à Paris, où les membres participent à des émissions de radio et jouent pour les soldats américains. Au programme, Stompin' at the Savoy, Moonlight Serenade et même la Rhapsody in Blue. Que des titres d'avant-guerre, car la grosse machine américaine n'est pas très novatrice dans son répertoire, comme le souligne le critique de jazz Nicolas Beignès.
Ce qui débarque en 1944, c'est l'orchestre de Glenn Miller, sous toutes ses formes. C'est encore le jazz d'avant, c'est-à-dire le jazz des années 30, ce qu'on appelait la swing era, les grands orchestres qui font danser. C'est tout ça qui débarque à Paris, particulièrement pendant cette période. C'est là-dessus qu'on danse, et on danse évidemment sur In the Mood, on danse sur tout ce qui était les grands orchestres de l'époque précédente, les grands standards de l'époque précédente, on danse encore là-dessus.
Pour les nouveautés, il faudra attendre 1945. Via la radio, les Américains vont implanter leur culture en Europe dans une entreprise de dénazification. Charles Delaunay va se procurer les tout premiers disques de bebop enregistrés aux États-Unis qui feront sensation rue Chaptal et qui renverront dans les cordes les vieux succès du swing d'avant-guerre. En France, une nouvelle génération acquise à cette musique verra le jour, Michel de Villers, Hubert Foll ou encore Maurice Vander. Mais nous ne sommes que fin 1944, la France n'est pas encore entièrement libérée du joug nazi. Le jazz en France sous l'occupation. Une série de Florian Royer avec Sophie Pichon à la réalisation, Éric Boisset à la prise de son et au mixage. Merci à Élise Dubost, Louis-Valentin Lopez et Sophia Anastasio, ainsi qu'aux documentalistes de l'INA. L'intégrale de la série est disponible en podcast sur le site de France Musique et sur l'appli Radio France.
France Musique. France Musique.